pour ceux qui ne connaîtraient pas Holly Park, tu peux nous en dire plus?
Bien sûr. Alors, si vous ne connaissez pas Holly Park, c'est déjà bien dommage parce que c'est un groupe super. On est un groupe originaire du Nord-Pas-de-Calais et on fait du rock qu'on dit alternatif parce que finalement, on a tous les cinq des influences assez définies mais différentes. Il y a Kevin et Nico qui sont plus metal, moi qui suis pop, il y a Rock et Max qui sont punk, pardon, et Rock aussi qui écoute un peu de glam rock. Donc voilà, il y a un peu le mélange de toutes ces influences dans notre musique, dans notre nouvel album, Sonic Bloom.
D'accord. Peut-être là justement pour donner encore plus un peu une idée d'identité du groupe. Donc vous là comme tu viens de le dire, vous avez des influences très variées, mais vous vous retrouvez sur quel artiste ou sur quel groupe qui plaît à tout le monde?
Les groupes qui nous mettent d'accord, c'est surtout Paramore, qui est un groupe plein d'énergie et en live, on a tendance à avoir la même énergie, le fait de sauter, de courir un peu partout et de profiter justement du fait d'être en live et de pouvoir se lâcher. Et il y a aussi Biffy Clyro, qu'on aime beaucoup tous, qu'on a écouté les albums dans la voiture tous ensemble, on s'est mis à chanter comme des mongols. Voilà, c'est les deux grosses références qui nous mettent d'accord.
D'accord, d'accord. Avec peut-être la difficulté, enfin on l'a vu pour Biffy Clyro, c'est ils sont un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'ils sont, c'est en même temps, ils sont un peu couverts par la presse métal et puis certaines presses rock, même un peu intellectuelle plaît. Vous, ça vous a jamais posé de problème pour l'instant?
On a rencontré le problème pour The Harvest, en fait. On était considéré comme un, pour le premier EP, on était considéré comme un groupe de pop rock. Sauf que pour la pop, on était trop rock, et pour le rock, on était trop pop. Donc quand il s'agissait de faire des plateaux ou quoi que ce soit, on avait rencontré ce problème justement, soit d'être trop fort ou soit de pas être assez fort. C'était pas une super sensation, donc pour l'album, on a décidé justement d'être plus décisif, plus arrêté, et de retrouver le côté brut que le rock peut avoir justement. Il rock dans son plus simple appareil, voilà, tout le monde avec son instrument, de guitare, une basse, le chant et la batterie dans leur plus simple appareil.
D'accord. Un petit mot sur le nom, il y a une signification particulière?
Oui, alors donc c'est Holly Park en entier. Le Holly, on l'avait d'abord pensé comme le Holly avec donc le côté sacré. Et puis Spark comme une étincelle, donc on peut le défendre comme une étincelle sacrée. Ensuite, il y a aussi le Holi en Inde, qui est la fête du printemps. Donc c'est la fête où on jette plein de pierres colorées pour fêter l'arrivée du printemps.
D'accord.
Donc c'était une image qui nous correspondait beaucoup, puisque ça suivait aussi l'idée de l'étincelle qui pouvait exploser. Et l'étincelle nous tenait vraiment à cœur parce que on se rend compte, en fait, quand on fait de la musique, quand on est artiste en général, je crois, que beaucoup de monde ne comprend pas ou alors ne nous suit pas dans notre délire. Et parfois, c'est difficile de dire, si, moi, j'y crois, mon projet, j'ai envie de défendre ce que je fais, j'aime vraiment, ça me plaît, ça me prend énormément de temps et d'investissement et j'ai vraiment envie de défendre, j'y crois. Et du coup, le fait de l'image de l'étincelle, c'est surtout de garder la petite flamme en soi qui fait que on y croit et qu'on va se défendre jusqu'au bout, quoi.
Ok. Est-ce que tu peux présenter, là aussi, tu nous dis ce que tu veux, ton parcours personnel avant Holly Park?
Mon parcours personnel, alors, je faisais pas énormément de musique. J'avais fait, je pense, beaucoup de chanteuses. J'avais chanté pour mes parents et puis pour quelques concours de chant dans un coin. Ensuite, je travaillais dans des bars où j'étais serveuse et finalement, les garçons m'ont contacté. J'avais fait une vidéo à l'époque où je faisais une reprise de Killing to You parce qu'il y avait un concours où on pouvait gagner le vélo dans lequel ils avaient tourné de Killing to You, justement. Dans le clip, elle était sur un vélo, donc j'avais fait le cover de cette chanson et les garçons, en voyant la vidéo, ils m'ont contacté pour faire de la musique. C'est aussi simple que ça.
D'accord. Et ça t'a paru une meilleure idée que passer sur TF1 ou M6 dans un concours?
J'avais essayé The Voice, tous les chanteurs, je pense, parce qu'en plus, tous les gens qui me connaissent dans mon entourage, ils m'ont toujours dit, essaye The Voice, tout ça, machin. Et en fait, ça n'avait pas été une expérience très enrichissante pour moi, dans le sens où J'ai fait l'audition, ça s'est super bien passé, sauf que au moment où on devait choisir de la chanson que j'aurais pu chanter en live, on n'était pas d'accord en fait. Ils voulaient me faire chanter absolument Julien Farmer et moi, c'est pas un univers qui me parle, même si j'aime beaucoup que voilà, c'est un parti pris, c'est pas du tout ma personnalité. Et du coup, je leur ai dit, bah non, moi, je veux chanter autre chose. Et ils m'ont appelé quelques temps après en me disant, bah écoute, on n'a pas su trouver ton univers musical, alors ce sera pas pour cette fois, mais on garde ton numéro.
D'accord. Ok.
Voilà.
Bon, d'accord.
T'as compris le message, quoi.
Ouais, j'ai dû avoir des réponses comme ça pour le boulot aussi.
Mais ok.
Pour le boulot, parfois, c'est le type de quand on cherche du boulot, c'est le type de réponse qu'on nous donne, quoi.
Bah ouais, c'est ça, quoi. Tu vois, genre, bah t'es bien gentil, mais comme on peut faire ce qu'on veut de toi, bah laisse tomber, quoi.
D'accord. C'était, c'est un peu en dehors de la. Ça a été formateur ou pas vraiment?
Ça a été formateur dans le sens où je me suis rendu compte que je faisais de la musique pour moi et que je voulais pas qu'on me mette dans une case. Et je veux être une artiste à part entière et je veux qu'on soit un groupe à part entière et que ce qu'on fasse, ça ait vraiment une signification pour nous. Et je pense qu'il y a que comme ça où on peut vraiment être bien reçu, quoi, où les gens peuvent comprendre un message ou recevoir nos intentions. Mais c'est pas en étant quelqu'un qu'on aimerait qu'on soit qu'on peut être épanoui, artistiquement du moins.
D'accord. Donc si on revient à l'actualité du groupe, donc vous avez sorti, je crois, en 2016, Dear West, qui est donc un extended play. Quoi de neuf depuis le groupe, hors l'album qui arrive, qu'est-ce que tu peux nous dire là sur la période entre sortie The Harvest et le travail sur le disque?
Sur l'album, alors pour The Harvest, on était trois, on était Kevin, Brock et moi, on sortait d'un précédent projet qui n'avait pas abouti, sur lequel on avait prévu de sortir un album qui finalement n'est jamais sorti. Et en fait, on a décidé après la séparation de nous continuer et de faire un nouveau projet à trois. Donc après, à trois, c'est difficile en live, donc on a enregistré l'album tous les trois, mais on l'a défendu à cinq en live avec Nico à la basse et Maxime à la guitare avec nous. Et on a fait plusieurs dates l'été 2016, on a été jusqu'en Corse pour faire la tournée des grandes villes corse. Ça nous a beaucoup rapprochés avec les garçons. On a vécu des moments plaisirs et puis quelques moments galères, comme toute tournée doit se passer finalement. Et en fait, on s'est dit, bah, écoutez les gars, voilà, quoi, avec tout ce qu'on avait partagé, on s'est dit qu'on allait se mettre ensemble, voilà, qu'on allait être un quintet et plus un trio. Donc on s'est mis à 5 et voilà ce qui s'est passé un petit peu entre les deux. Donc ensuite, plus du tout le même processus au niveau de la compo. On a dû apprendre à connaître tous les 5 et à revoir notre façon de composer qui était plus difficile dans le sens où on avait 5 têtes et plus 3. Donc les idées elles venaient de 5 têtes et il fallait les coordonner pour qu'on se rejoigne sur des idées communes. Donc voilà, ça a été un gros travail de dévoiler aussi aux nouveaux membres hein, qui finalement nous connaissaient mais pas dans. Finalement on s'est beaucoup dévoilé tous les 5, on s'est beaucoup renfermé sur nous pour écrire l'album. Et voilà, Sonic Boom en a découlé.
Un petit mot sur cette tournée corse. Vous avez eu une opportunité, vous êtes dit où on veut passer entre guillemets avec d'énormes guillemets des vacances, la Corse, on fait le tour et on essaie des concerts, ou comment ça s'est passé?
Bah, en fait, c'est une amie à nous qui avait déjà eu des plans les années précédentes pour des groupes de covers, tout ça. Donc, elle avait déjà géré quelques dates pour nous, elle avait présenté le projet et du coup, pendant les concerts en Corse, on faisait aussi des reprises, donc de Muse, Coldplay, tout ça, en restant dans l'univers rock. Et on s'est dit, bah, franchement, c'est cool, et finalement, une fois sur place, bah, on a eu la chance de pouvoir profiter de certains jours off, même s'ils étaient rares. Et surtout, on ne se rend pas compte, mais en fait, ça a été vachement cool pour nous, dans le sens où la Corse, comme c'est une destination de vacances, il y avait plein de monde, mais il y avait des Espagnols, il y avait des Italiens, il y avait des Allemands, des Anglais. Quand on jouait dans les campings ou dans les soirées, enfin des petits festivals qu'ils faisaient là-bas, quoi. Donc c'est cool, finalement, on a rencontré des publics auxquels on ne s'attendait pas, et ça a été une belle surprise. C'est vraiment cool.
D'accord. Tu mentionnais le début d'Holly's Park, donc c'était un ancien groupe c'est un ancien projet qui n'a pas donné suite et vous avez monté une nouvelle structure. Est-ce à dire que sur The Harvest, il y a des... Il y a des compos ou des bribes de titres qui devaient, qui à l'origine devaient apparaître sur l'ancien projet ?
Il y a des idées, ouais. Mais de toute façon, c'était principalement nous trois qui composions déjà à la base dans l'ancien projet.
D'accord.
Et du coup, c'est peut-être aussi pour ça que ça a été relativement rapide entre la rupture et l'enregistrement de l'album, parce qu'on avait certains titres et il y en a trois, je pense, qui étaient déjà dans l'ancien projet et trois qui ont été spécialement composés pour Pierre.
Ok. En général, quel est le processus classique de création d'un titre pour Holly Spark ? Vous suivez un peu toujours une méthode ?
Ouais, j'ai envie de dire, comme tous les groupes, on se réunit et puis on dessine un pentagramme sur le sol et on se met tous au bout d'une pointe, comme on est cinq, ça tombe bien. Et puis on fait des prières et en fait, au bout d'un moment, il y a Merde, j'ai raté ma blague. Donc, au moment, il y a des partitions qui arrivent au milieu du paragraphe, et puis voilà, tout ça vient, on a des titres situés.
D'accord, c'est efficace, c'est cool.
Bah ouais, c'est efficace, tu vois, finalement, on a sorti 11 titres comme ça. On fêtait des grosses soirées, on fêtait quelques frayeurs, mais on a évité pas mal de cire, mais c'est plutôt bien passé.
Et 200 ?
Et 200. Ça va. Enfin, on est sorti, on est encore vivant, tu vois, donc on a encore quelques albums qui peuvent arriver.
Voilà, mais est-ce que c'est toujours un ou deux ou trois d'entre vous qui vient avec une structure, une idée, un riff, toi tu chantonnes une mélodie, enfin ça se passe comment ?
Ouais, c'est ça, en fait, il y a surtout les guitaristes qui arrivent avec un riff sur lequel moi j'écris mes textes un peu en amont, et du coup j'essaye de les poser sur les riffs, et on voit où ça nous mène, quoi, ensuite... De toute façon, on a touché à 5, donc on était en réunion, voilà, en répète, dans une salle, tranquille, tous les 5, à 3 à 4 fois par semaine, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Et dès que quelqu'un avait une idée, on faisait tourner un peu comme une jam, en fait, et chacun ramenait ses idées, ou mettait un veto pour certaines idées nulles. On a essayé de faire la chose de façon la plus équitable possible.
Et donc, est-ce à dire que t'as sur toi un petit carnet ou sur ton téléphone tu notes des trucs tout le temps
Ouais, c'est ça. Parfois, même, c'est ce que je me dis, c'est que quand genre j'écoute la radio ou quoi, il y a une phrase qui me parle, ou j'écoute une chanson, juste parfois qui me parle dans une chanson, et une phrase, je me dis putain, génial, du coup j'essaye de tourner autour de ce thème-là. J'ai toujours mon petit carnet ou mon portable à côté de moi et. Parfois, juste en me baladant, quoi, je m'arrête et j'écris.
D'accord.
Sur ce que je vois, sur ce que je ressens.
Avec le choix du... Enfin, le chant en anglais, c'était une évidence ?
Ouais, pour tout le monde. Mais surtout pour moi qui écoute principalement de l'anglais. Alors, ce que j'aime dans l'anglais, personnellement, c'est que quand il y a un texte, quand il y a une musique qui me parle... Quand il y a un texte que je comprends pas, je m'embête vraiment à essayer de le traduire, à essayer de comprendre le message qui a pu véhiculer l'artiste. Et du coup, je me dis, moi personnellement, en tant que française, ça me permet aussi de me cacher un petit peu, si tu veux, genre de chanter en anglais. Quand on chante devant un public français, ils comprennent pas tout dans l'immédiat. S'ils veulent vraiment chercher à comprendre, ils peuvent aller trouver le contenu sur internet et écouter l'album en plus clair. Mais du coup, ça me permet, moi, de garder un petit peu de mes sentiments privés à moindre échelle, quoi.
D'accord, ok. Okay. Au niveau business, donc, de mémoire, l'EP, c'était en autoproduction ?
Ouais.
Là, vous êtes passé chez Sandalwood ?
C'est ça.
Comment, sans dévoiler de secret particulier, comment ça s'est passé ?
Ben, échange de mails, en fait, on a... Les frères Potvin, merde, comment ils s'appellent leur société. Ah, je l'ai plus en tête. Ah, je l'ai checké dans le mail. Sur notre maison d'édition, en fait, avec qui on a signé, je crois, en été 2016, ouais, en fin d'été 2016. Et du coup, ils nous ont donné quelques contacts à qui de transmettre le B. Finalement, ça a accroché avec Sandalwood.
Et vous aviez arrosé large ?
Pardon ?
Vous aviez arrosé beaucoup de labels ou ?
Non, je pense qu'on en a envoyé 5-6.
Parce que là aussi, Sandalwood, ils sont plus orientés métal.
Bah ouais, finalement, c'est ce qu'on s'est dit et on a quand même tenté parce que y a certains riffs parfois qui peuvent être d'influence métal, et ben, ils ont accroché. Sans savoir pourquoi, hein, mais ils nous ont tout de suite relancé en disant que c'était cool et qu'ils voulaient absolument travailler avec nous. Et j'ai envie de dire que c'est un peu la bonne étoile.
D'accord, mais donc, comme c'est le cas malheureusement maintenant, vous fournissez un produit fini et ils distribuent.
Exactement.
D'accord.
C'est ça.
Donc c'était pour vous le progrès de dire que ça sera beaucoup plus largement disponible.
C'est ça, et puis il sera plus largement diffusé. C'était ça aussi, quoi. Là, du coup, on se sent un peu plus soutenu, et puis ils ont certains contacts aussi. Maintenant, on travaille avec Replica, avec Congé Vessier, et on travaille aussi avec... j'ai plus les noms, j'ai pas la feuille sous les yeux, mais genre, ça nous a ouvert des portes. Et ça nous rend plus crédibles aussi aux yeux de certains professionnels d'avoir un label, quoi. C'est toujours plus imposant que d'arriver avec son sac libre et dire, ben voilà, on a un album, on aimerait bien jouer. C'est difficile de descendre comme ça.
D'accord. Ok. Donc tu mentionnais un peu le processus de création de Sonic Bloom. Est-ce que au niveau de l'enregistrement lui-même, vous avez modifié des choses par rapport à votre vous étiez 5, modifié votre façon de travailler par rapport à Zervest?
Oui et non. On bossait comme ça déjà avec Zervest. C'est juste que là, Kevin, le premier guitariste avec lequel on avait commencé. Proposer des idées, là maintenant, Nicolas aussi en a proposé certaines. Donc c'est juste ça, mais le processus était le même, on a toujours voulu donner sa chance à chacun de défendre son bout de gras, comme on dit, et de dévoiler ses sentiments dans les chansons, quoi.
Et l'enregistrement lui-même, c'est quelle période de temps?
L'enregistrement, on l'a fait en 2 sessions, on l'a fait en une semaine, et puis en... mars, il me semble, et du coup, enfin février, fin février, et la deuxième session, elle était en avril, donc l'année dernière, en 2017, et donc elle s'est étendue sur 3 semaines, et en fait, on est arrivé en studio, on avait
maquettes,
des morceaux presque terminés, mais on s'était dit, on va se laisser une certaine liberté en studio pour justement voir les derniers petits peaufinements à faire, les petits arrangements à droite à gauche, les petits trucs à rajouter, les chœurs à faire... On s'est laissé une certaine liberté qu'on a fait sur place. Et c'était vraiment cool comme processus parce que penser comme ça, du coup, on est vraiment tous les 5 investis et on s'écoute. Et c'est important parce que on se sent soutenu et vraiment en confiance tous les 5 envers les autres, quoi.
Vous avez donné un ou des concerts entre les 2 sessions?
On en a donné un, mais c'était un ou deux par-ci par-là, mais c'était plutôt pour garder la main, mais il n'y avait pas particulièrement, à part le P, grand-chose à défendre, quoi. On était surtout dans l'optique de création de l'album.
Mais vous n'avez pas testé les trucs sur scène?
Non, pas particulièrement.
D'accord, ok. parlons un peu visuel. Alors autant Zervest c'était très printanier, couleur chaude, sympa, autant Sonic Bloom c'est un peu la déprime totale.
Peut-être que finalement c'est notre descente aux enfers. Je vais être passé à 5.
L'idée c'était juste de dire quelle a été, consciemment, on passe pas du très clair au très foncé sans que ça soit neutre, et donc comment vous avez bossé avec l'artiste, et quelle était votre demande ou votre idée d'origine?
Pour le P, en fait, on était 3 et on sortait d'une période merdique où on venait de se séparer avec l'autre groupe. On était carrément en train de se dire, bon, on continue, on arrête, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Donc du coup, on a sorti le P et on était tellement contents, je pense que on s'est dit, vas-y, on était en mode joyeux, quoi. Il fallait absolument que ça pète et que ça se voit et que ce soit coloré comme nous, on imaginait le truc, avec en plus on avait l'idée de Oli Spark, donc Oli, la fête du printemps, donc c'est ça qui a amené les couleurs. Ensuite, pour l'album est dans son entièreté beaucoup plus froid que Zervest, parce qu'il est plus personnel, et puis il est plus travaillé, plus abouti. J'ai envie de dire que entre deux, il y a la maturité aussi qui a fait son petit bout de chemin et qui nous a amené là où on est. Et on a l'esprit un peu de ce qui me plaisait dans Dear Best et de ce qui me plaisait moi. Et du coup, on s'est dit, bah, finalement, on a peut-être simplifié un peu les choses. Donc, on voulait faire ressortir dans la couverture, quoi. On voulait quelque chose de simple, de neutre. Et peut-être un peu repartir sur des bases de scène. Après, l'idée de la serre et des plantes à l'intérieur, ça nous plaisait dans le sens où, pour composer l'album, on s'est mis vraiment à 5. Et genre dans notre petite bulle où personne pouvait intervenir, où personne n'avait son mot à dire, on était en train de découvrir aussi les uns les autres, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le téléphone, mais tous rejoints, quoi, avec Eucho, en train de préparer le projet, et l'image de la serre, c'est vraiment le fait d'être tous réunis et de grandir et d'apprendre ensemble, quoi.
Ouais, mais ça aurait pu être beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus... Et enfin, la première impression, c'est déjà on a du mal à voir ce que c'est, il faut regarder très en détail, mais ça c'est pas désagréable. Mm-hmm. Mais en plus, enfin, l'impression générale, même tout le DJ en le tournant, ça c'est quand même très sombre.
Mm-hmm. Je pense que du coup, on est peut-être un peu plus. Je sais pas comment dire, un peu plus profond qu'on a été dans la compo ou aussi dans le texte, hein, parce qu'il y a des textes qui sont plus personnels et. Je dirais pas plus sincère parce que j'ai toujours été sincère, mais il y a des sujets qui dont j'ai parlé dans l'album que je n'ai pas abordé dans l'EP en fait. Et, du coup, ouais, je sais pas, je voulais vraiment, on voulait vraiment une pochette qui n'attirait pas l'œil particulièrement et plutôt se concentrer sur le son. Voilà. Ensuite, il y a le doré du coup pour ramener un peu cette lumière, cette étincelle, le spark, quoi, vraiment le côté doré. Qui nous est propre et ça a contrasté très bien avec le noir et blanc.
D'accord, d'accord. Autre chose, le choix du Digipack qui pour vous, par rapport au boîtier cristal, qui pour vous souvent représente un coût supplémentaire.
Oui, après ça n'a pas été un coût énorme. C'était vraiment pour pouvoir mettre des remerciements, tout ça, chose qu'on n'avait pas pu faire sur le T parce que c'était un CD basique, une pochette cartonnée, donc il y avait vraiment juste avant-arrière. Là, il y avait le livret à l'intérieur, donc c'était. C'était un choix pour nous vraiment de remercier tous ceux qui nous ont aidés parce que on a des familles et des amis très investis aussi dans le projet et qu'on voulait absolument remercier sur l'album.
Ok. Toujours dans le domaine visuel, on voit sur votre Facebook qu'il y a pas mal de vidéos où vous tournez la vie du groupe entre guillemets. Est-ce que le média clip vidéo vous intéresse et est-ce que vous avez des projets dans ce domaine-là?
La question, excuse-moi.
Pas de souci. Est-ce que faire des clips vidéo, c'est un projet qui vous intéresse? Et est-ce que vous avez des choses dans les tuyaux?
Alors là, on a tourné dernièrement avec l'Aéronef, qui est une salle du Nord, qui a produit nos deux. Donc on a fait deux clips live avec les Kiki Bronx, pardon. Donc c'est deux nanas qui ont réalisé le clip visuel, et puis on a fait des prises live avec un ingé son. Et du coup, ils vont sortir normalement la semaine prochaine. Donc, c'est sur le titre Hope et le titre The Shadow. Et on a un projet aussi avec Frédéric Berthe, qui est un réalisateur français, qui est plutôt dans les films, qui a réalisé aussi des épisodes de H, tout ça, qu'on avait rencontré à la tournée qu'on avait fait en Corse. En fait, il nous avait vus et il nous avait dit, bah, écoutez, les gars, c'est sympa ce que vous faites et tout, et j'aimerais bien pouvoir vous donner un coup de pouce. Donc, voilà, il nous avait dit, je suis réalisateur. J'aimerais bien, il a jamais fait de clip, mais il aimerait bien se prêter au jeu, quoi. Il avait envie d'essayer, et depuis on a gardé contact. Donc c'est prévu pour le mois d'avril, sur un autre titre de l'album, mais bon, je le garde secret, c'est plus sympa. Mais oui, il y a des projets qui vont se concrétiser, et je pense vont faire plaisir.
Mais donc là, ça serait du clip scénarisé?
Ouais, c'est ça.
D'accord. Dans les semaines à venir, il y a des concerts.
Ouais.
Il y en a déjà eu deux, a priori, là, très récemment.
Ouais, c'est ça. Il y en a eu un au Cultura de Villeneuve-d'Ascq dans la région lilloise et un du côté du Valenciennois à Tholem, un café et dans un bar concert qui s'appelle le Smok.
Et il y en a au moins une dizaine qui arrivent.
Exactement, une dizaine, voire une quinzaine, parce que parfois on en fait deux par jour en fait. On en fait l'après-midi et le soir.
Mais donc c'est des quoi, c'est des concerts réduits ou
comment... Alors il y a des bars, il y a des bars concerts, il y a des cultura, parce qu'on joue aussi dans les cultura en acoustique du coup pour se prêter au cadre, parce que finalement on peut pas trop jouer en électrique dans un magasin où les gens sont pas prêts à écouter de l'électrique. Et ouais, non, le reste du temps c'est des salles du Nord-Pas-de-Calais surtout.
D'accord. Une dernière question sur ce domaine-là. Donc Nord, vous êtes du Nord, donc comme tu disais, du Nord-Pas-de-Calais. Est-ce que la proximité de la Belgique, ça aide ou ça aide pas?
On a déjà fait les concerts en Belgique. On avait fait le festival légendaire pour lequel on avait ouvert pour Axel Red, et l'année suivante on avait ouvert pour Louis Bertignac. Hein. Et concrètement, je peux pas mentir, le public il est carrément plus rock. Hein. Dans l'or, il y a quelque chose qui, je sais pas, c'est peut-être le fait d'avoir froid. Du coup, on a le cœur froid, donc on a besoin de faire du rock et on s'y retrouve là-dedans. Après, on est à proximité aussi de l'Allemagne, qui est un pays assez rock. L'Angleterre aussi, qui est pas loin. Hein. On est à 2 heures de Londres, même pas. Donc, je pense que le rock dans l'or, on est plutôt bien situé. Ouais.
D'accord. Et dernière question, de ton point de vue ou du point de vue, enfin, donc du Nord, qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce que tu peux nous dire de la scène rock française, si t'as un avis.
Oui, j'ai un avis. Après, est-ce qu'elle est vraiment existante, je ne sais pas. À part les quelques festivals comme la FEST ou le Download qu'on peut entendre, dont on peut entendre parler, il y a aussi le Main Square, même si maintenant il s'ouvre un peu plus à d'autres univers musicaux. Je trouve que dernièrement, la scène rock, elle n'est pas assez mise en avant en France, parce que, en fait, je pense qu'on ne lui laisse pas assez de place. J'ai l'impression qu'en France, on passe sur les acquis, donc sur les choses qui marchent, qu'on a déjà entendues, les recettes qu'on connaît. On sait qu'elles sont bonnes, on sait qu'elles fonctionnent, et on se repose un peu sur nos lauriers. Je trouve ça dommage, parce que en rock, on se défend relativement bien. Il y a des groupes comme Gojira qui sont capables de faire des concerts de malades outre-Atlantique, et je comprends pas comment on puisse ne pas en entendre parler plus que ça en France. Il y a Chaka Ponk aussi, ou Skill the Youth, qui ont eu un moment, et Chaka Ponk qui revient dernièrement. C'est la preuve que il y en a, mais on n'en entend pas assez parler. C'est triste.
Ok, bon. Merci pour cette interview, et puis tous mes voeux pour la suite.
Merci, c'est gentil, merci d'avoir appelé, et puis de parler un petit peu de nous. Surtout, n'hésite pas, quand tu sors la chronique, de nous contacter pour qu'on puisse la publier, nous aussi.
Pas de soucis.
Ça marche?
Ok, merci, okay. Et bonne soirée.
Génial. Bonne soirée, salut.
Ciao.